première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Quelque chose du temps à Bruxelles. À l'Association du patrimoine artistique, située au 7 de la rue Charles Hansens à Mille-Bruxelles. Bruxelles autrefois. Les églises, chapelles et couvents disparus. Avec Pierre Lose. Jusqu'au 26 octobre. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Des places de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, va s'inquiéter.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Alechinski.
Authentique, me tento, me tente, tonton, stélé.
Le monde invisible.
40 ans, Pierre Lose. Vous fêtez les 40 ans?
Mais oui, ça passait très vite. C'est une aventure qui a commencé au sein même de l'IRPA, avec ce jeune fonctionnaire Denis Kuckelberg. Moi-même, je travaillais à ce moment-là comme objecteur de conscience à l'IRPA. C'est là que j'ai fait mes premiers pas dans mon métier. J'avais à côté de moi quelqu'un qui avait fait un inventaire complet de toutes les églises du Brabant et donc qui avait vu passer énormément de choses, beaucoup d'objets qu'il avait eu en main, qu'il avait fallu identifier, dater, etc. Qui avait une expérience considérable. Et moi, j'avais le démon de l'écriture, c'était mon projet d'être écrivain. Les deux ensemble, ça a fait 25 ans de collaboration extraordinaire, et nous avons pu réunir à ce moment-là des équipes qui nous ont aidés dans les recherches. Nous faisions fonction de rédacteurs en chef l'un et l'autre, et nous avons d'abord publié sur le patrimoine des églises plusieurs ouvrages, le catalogue Trésor d'art des églises de Bruxelles, puis un livre sur l'église du Béguinage. Et puis les hommes politiques nous disaient, oui, l'église, l'art religieux, etc. Ça fait aussi des choses sur l'art civil. Bon, eh bien, qu'à cela ne tienne, nous avons fait un livre sur le Grand Hospice, qui est un très beau bâtiment, un des plus beaux bâtiments néoclassiques qui ait été fait à Bruxelles. Et tout le quartier que nous avons étudié, le développement urbain de ce quartier. Alors moi-même, je préparais un livre sur le palais de justice et j'avais beaucoup étudié. Comme vous savez, on vient de retrouver les plans du palais de justice. Je les ai cherchés pendant des années. Et en l'absence de documents qui m'auraient permis de faire un travail classique d'histoire de l'art, à comparer des dessins, des projets, et de me baser sur des lettres, il m'a fallu apprendre à faire la synthèse d'un sujet très vaste concernant le palais de justice, la justice, la situation économique au XIXe siècle, etc. Et donc j'avais réuni une matière considérable à étudier tous les autres architectes de l'époque. Et je crois que c'était le dernier jour où je travaillais à l'IRPA, une dame est venue voir le directeur pour un projet qui s'appelait « Faire une exposition Poulart et son temps ». Et j'ai vu la porte de mon bureau s'ouvrir, le directeur de l'IRPA qui a dit à cette dame « Voilà madame, l'homme qu'il vous faut ». Et donc nous avons fait une magnifique exposition, qui était la première, accompagnée d'une publication chaque fois, sur l'ensemble des dessins qu'on avait pu retrouver concernant le grand effort de construction qui a eu lieu, je dirais, de 1830 à 1900. Et comme Denis Kuckelberg avait lui-même fait une thèse sur le néoclassicisme, sur les peintres néoclassiques, Denis s'était intéressé, au fond, aux artistes les moins connus. On connaissait mal ces peintres qui étaient allés à Rome à l'époque néoclassique. Et bien, quelques années plus tard, nous avons fait une exposition sur la période néoclassique de 1770 à 1830, tous les peintres de cette époque-là. C'était aussi une matière méconnue et donc en danger. Au moment où nous avons fait l'exposition sur le néoclassicisme, quand nous avons demandé certains tableaux, je songe aux tableaux de Van Bree dans les musées, ils allaient les chercher à côté de la cave à charbon. Et on les voyait arriver avec des trous et dans un état pitoyable. Tous ces tableaux sont remontés dans les salles grâce aux publications qu'on a faites. Le commerce d'art s'en est très bien porté aussi. Et il y avait aussi un peintre totalement méconnu, André Corneille Lenz, peintre de la fin du 18e qui meurt au début du 19e, qui appartient non au néoclassicisme davidien, mais à celui qui lui est antérieur, le premier néoclassicisme. Un art très suave, très doux, dont on retrouve un peu l'ambiance dans la musique avec les opéras seria de Mozart. Cet artiste était complètement méconnu. J'ai rencontré une dame qui avait une grande demeure et qui me racontait qu'on s'essuyait les pieds sur les anciens tableaux de André Corneille Lenz au début du 19e siècle en rigolant. Ce n'était plus du tout le jour. Et donc, nous avons eu un collaborateur qui a fait une étude sur ce peintre. Nous avons fait une très belle exposition à Anvers. Et puis, on l'a exporté, on a montré ça en France aussi.
Quelque chose du temps à Bruxelles.
Puis après ça, nous avons fait une exposition sur les arts déco en Belgique. C'est-à-dire, au fond, les artistes qui étaient restés figuratifs dans l'entre-deux-guerres, il y en a beaucoup plus qu'on imagine, comparé au petit nombre de gens qui ont imité Picasso, Braque et compagnie, ou Malevitch avec 20 ans de retard. Et nous avons réhabilité aussi tout cet aspect, au fond, d'une culture figurative. J'ai réalisé combien dans l'art abstrait, il y avait aussi une confiscation de quelque chose d'humain et d'humaniste qu'il y a dans le goût de la représentation. Et donc, avec une certaine cohérence, nous sommes occupés de cet art déco dont le nom lui-même était déjà irrespectueux. Il est né d'un sobriquet par rapport aux avant-gardes. Et j'avais beaucoup de peine à l'époque, dans les années 80, à faire comprendre l'intérêt que je portais à des peintres dits d'arrière-garde. Et ensuite, nous avons fait cette œuvre magnifique, ce livre de 500 pages sur la création de la sculpture baroque en Belgique, qui était une grande aventure. Nous, nous n'avons jamais cessé, chaque année, de trouver de nouveaux sujets, parce qu'après ça, nous avons développé l'artiste Navet, que tout le monde connaît comme portraitiste, mais moins bien comme peintre de tableaux religieux et surtout de scènes à l'italienne tout à fait délicieuses. Le même collaborateur qui a étudié André Corneille Lenz a étudié le sculpteur Delvaux, très très beau sculpteur du XVIIIe siècle, qui a eu une phase néoclassique et puis qui est revenu à un art plus rococo et puis qui est redevenu néoclassique. Phénomène tout à fait intéressant d'involution dans la carrière d'un artiste qui devait suivre la mode. Il est allé travailler en Angleterre où le néoclassicisme avait pris un peu d'avance et il a eu une période néoclassique. Il est revenu ici et il s'est adapté au baroque finissant et puis à l'époque de Charles de Lorraine. C'est lui qui a fait le fameux Hercule qui est au pied d'escalier du palais de Charles de Lorraine. Après une exposition au musée d'Ixelles qui concernait le voyage d'Italie, nous avons vu quand même la difficulté parfois de travailler avec les musées, dont l'agenda ne correspond pas au nôtre, etc. Et nous sommes dit qu'il était intéressant d'avoir un petit local où nous pouvions faire des expositions périodiquement, aussi bien sur des artistes contemporains que sur des sujets anciens. Ces dernières années, nous avons fait plusieurs expositions sur l'histoire de la ville de Bruxelles. Il y a un public qui s'intéresse beaucoup. Une étude sur les demeures nobilières. Vous avez ici l'exposition sur les couvents disparus. Les sujets ne manquent pas. Et ils vont de pair avec la recherche scientifique. Chaque fois, on cherche de nouvelles informations et on en trouve. Et à côté de ça, nous sommes ouverts à des artistes qui n'ont pas toujours facile à trouver une galerie d'art contemporain. Ils n'avons pas vocation à entrer dans ce mouvement de l'art dit contemporain qui va si bien avec les placements d'argent. Et il y a des artistes qui vivent en dehors de ce système, qui ont des amis qui leur achètent des tableaux, et qui fonctionnent selon d'autres critères d'inspiration. Je m'intéresse à tout, je trouve que l'art contemporain est intéressant aussi. Mais je trouve dommage de mettre sur le côté des artistes qui travaillent ici, qui n'ont pas forcément une galerie à New York, à Los Angeles et à Paris pour faire connaître leurs œuvres, et donc qui sont très heureux de trouver l'accueil dans une galerie.
Quelque chose du temps à Bruxelles. À l'Association du patrimoine artistique, située au 7 de la rue Charles Hansen, à Bruxelles. Bruxelles autrefois. Les églises, chapelles et couvents disparus.
Vous dites Pierre Loos, comme une boucle qui se boucle ?
Oui, en effet, cette exposition renoue en quelque sorte avec l'origine de l'association. Il y a 40 ans, un jeune fonctionnaire qui était chargé de l'inventaire du patrimoine des églises du Brabant s'est rendu compte de l'état de certaines œuvres conservées dans les églises. Et notamment, un tableau qu'on a pu voir récemment dans une grande exposition consacrée au peintre Théodore Van Loon, le martyr de Saint-Lambert. Ce tableau était en très mauvais état, et ce fonctionnaire qui s'appelle Denis Kuckelberg est allé voir le bourgmestre de la commune de Haut-Lieu-Saint-Lambert en lui signalant l'état de ce tableau et la nécessité de le restaurer. Et le bourgmestre de cette commune, qui s'appelait François Persoons, et qui était à ce moment-là secrétaire d'État, a proposé de faire une association, l'Association du patrimoine artistique, pour essayer de sensibiliser à l'état du mobilier des églises et d'engendrer des restaurations des tableaux qu'elle contenait. Et alors, nous avons fait une exposition, cette année-là, qui était l'année 1979, lors du millénaire de la ville de Bruxelles, nous avons fait une exposition qui s'appelait « Trésor d'art des églises de Bruxelles » à l'église de la Chapelle. Et à ce moment-là, déjà, en étudiant l'ensemble du patrimoine des églises et les différents moments qui avaient engendré des destructions, notamment les réformes de Joseph II qui a supprimé pas mal de couvents, mais ensuite évidemment la Révolution française, nous sommes rendus compte qu'il serait intéressant de faire une exposition et une publication sur les églises et couvents disparus, dont les tableaux ont été généralement vendus lors de la dissolution de ces ordres par les Autrichiens. Et donc, certains de ces très beaux tableaux se trouvent aujourd'hui à Vienne, ou en Espagne, ou en France, quand ils ont été emmenés en France par les révolutionnaires. Et l'exposition que nous ouvrons commémore à la fois les 40 ans d'activité de l'association et donne une idée du mobilier qui se trouvait dans ces églises. Nous avons fait une longue recherche pour trouver soit les tableaux qui existent encore, soit les représentations qu'on en a, pas seulement les tableaux, mais aussi les sculptures, les tombeaux, les inscriptions, etc. Et au fond, nous sommes dit que les lieux où le public était autrefois en contact avec les œuvres d'art, alors qu'on ne parlait pas vraiment d'art à ce moment-là, c'était les églises et les couvents où ils voyaient des tableaux, des statues, des mobiliers sculptés et toutes sortes de choses qui touchaient la sensibilité humaine à travers la représentation. Les églises ont connu beaucoup de vandalisme, du vandalisme qui venait parfois même de l'église elle-même, de son souci de réforme, et pas seulement les réformes du XVIe siècle. Depuis très très longtemps, il y a une tendance aniconique dans le christianisme, et le catholicisme au fond a gardé l'aspect du contact avec le public à travers l'image. Et au fond, il a agrégé un substrat antique ou païen à travers des représentations où des personnages comme les saints sont devenus des espèces d'icônes de la foi. Et au fond, cette tendance de communiquer à travers l'image, elle nous vient des Grecs et des Romains. Et les tendances aniconiques sont au contraire nées d'une volonté philosophique et théorique qui devient parfois excessive et qui entraîne des destructions. Les historiens de l'art, évidemment, sont très attachés à toutes les représentations, puisque c'est leur métier, et que leur religion aniconique intéresse plutôt les philosophes. Et les différentes sectes protestantes, dont certaines sont plus rigoureuses que d'autres.
Avec Pierre Lose, jusqu'au 26 octobre.
Mais figurez-vous que le jeune fonctionnaire dont j'ai parlé, Denis Kuckelberg, était chargé d'un inventaire, un grand inventaire qui a été mis en place par un ministre catholique qui était Vigny. Et c'est Vigny qui s'est dit au moment de Vatican II que tout le mobilier des églises était en danger devant ces réformes sur lesquelles il avait peut-être sa propre opinion personnelle. Et il est vrai que les confessionnaux, toutes sortes d'objets, avaient cessé d'avoir une fonction à partir des réformes de Vatican II. Et on n'imagine pas le bien qu'a fait cet inventaire, d'une part à la conservation, mais aussi à la recherche scientifique. L'association a eu l'occasion de publier un livre de 500 pages sur une phase de l'art des Pays-Bas qui va de la fin du XVIe siècle au milieu du XVIIIe siècle, où la sculpture, le mobilier sculpté prend une importance considérable. Et dans cet art, la Belgique égale l'Italie en qualité. Une partie de ce mobilier est tributaire, d'une part, de l'effort de la contre-réforme, mais d'autre part, du talent de Rubens, qui a généré une vision de l'espace religieux qu'il a su communiquer à une génération de jeunes sculpteurs. Et autant les successeurs de Rubens, les élèves et les émules, n'ont pas réussi à l'égaler, sauf Van Dyck évidemment, autant les sculpteurs, à partir des intuitions de Rubens, ont fait des choses extraordinaires. Nous avons vraiment une transposition de la conception spatiale et religieuse de Rubens dans le mobilier d'église qui s'épanouit à partir des années 1620 et qui survit jusqu'au milieu du XVIIIe siècle de façon extraordinaire. Tout ça aurait pu être détruit si l'indifférence vis-à-vis du mobilier d'église ou un certain goût du purisme, d'un aménagement moderne des églises avait triomphé. Aujourd'hui, beaucoup de ce mobilier existe encore et a des qualités sculpturales extraordinaires.
Quelque chose du temps à Bruxelles.
Pierre-Lose, pensez-vous que les jésuites ont joué un rôle ?
Les jésuites ont certainement joué un rôle dans la mesure où, par exemple, dans leur manière d'inclure le théâtre dans la formation des jeunes gens, la forme de pensée, je dirais, des pratiquants du culte de façon générale est empreinte d'une certaine théâtralité que Rubens a réussi à traduire lui-même. Et donc, effectivement, c'est un des ordres importants. Il faut savoir aussi, d'ailleurs, qu'en 1773, un ordre vient de la papauté qui se laisse impressionner par les idées des Lumières et considère, comme pas mal d'intellectuels à l'époque, que les jésuites sont trop encombrants. Et donc c'est la première démarche qui va entraîner une série de ventes où se presseront les émissaires des cours étrangères. Et quelques années plus tard, 10 ans plus tard, c'est Joseph II, en 1783, qui commence à démanteler une série de couvents jugés inutiles. Nous avons tous appris ça à l'école, qui a eu des cours d'histoire, se souvient de cet épisode de Joseph II, qui décide de blanchir l'intérieur des églises, qui décide de supprimer les couvents inutiles, etc. Et qui va d'ailleurs soulever une fureur générale, autant des progressistes que des catholiques. Et nous allons connaître à ce moment-là la Révolution brabançonne, qui curieusement va donner la main à la Révolution française, qui est quand même de toute autre nature. Et c'est un épisode que tout le monde connaît. Et c'est à ce moment-là que les églises ont le plus souffert, évidemment. Mais curieusement, c'est la fin de l'Ancien Régime qui est la plus ravageuse. Une autre chose qu'on ne sait pas, c'est que à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, les abbayes étant très prospères, ont renouvelé leurs bâtiments, aussi bien en France qu'en Belgique d'ailleurs. Et que la première phase de destruction de ce patrimoine médiéval gothique se passe à partir de 1750. Et quand on voit les écrits de l'époque, le gothique est une chose barbare, horrible, un style caduc, comme on écrit à l'époque. C'est à cette époque-là, par exemple, qu'on détruit l'hôtel Nassau, qui était un magnifique bâtiment. Et c'est Charles de Lorraine qui le fait rénover en gardant grosso modo les murs existants pour en faire un bâtiment néoclassique qui ne manquait pas de qualité. On en a toujours la façade, mais qui fait disparaître des joyaux de l'architecture du tournant du 15e et du 16e siècle.
Les églises, chapelles et couvents disparus avec Pierre Nose.
Chaque génération procède à des destructions, à travers des rénovations, à travers un goût nouveau qu'on applique, un art à propos duquel on s'enthousiasme. Parfois même, le néo-gothique a oblitéré le gothique réel. Le goût de l'art nouveau a parfois été ravageur pour l'art nouveau lui-même. Les premières restaurations faites par un amateur d'Horta étaient ravageuses. Et donc, c'est un peu comme les collectionneurs d'auto qui achètent une vieille voiture et qui se mettent à la customiser, ce qui la détruit complètement et cesse d'en faire un objet original. Et donc, il y a la même chose en art, et il faut savoir que chaque génération a son projet de destruction du patrimoine sans le savoir. Un jeune arrive dans une maison et dit « Ah, on va changer ça, on va renouveler ça, etc. » Puis des années après, il se dit « Oh, c'est dommage, c'était joli, mais c'est trop tard. » Ça se passe, dans notre pays en tout cas, en 1793. À ce moment-là, méthodiquement, les Français mettent la Belgique en coupe réglée. Ils y voient des richesses à prendre et un territoire qui agrandit la France. Ils mettent d'abord en place la gendarmerie, ensuite le notariat. Ensuite, ils procèdent à la vente des biens de l'Église et de la noblesse. En ce qui concerne les grandes abbayes, ce sont généralement ce qu'on a appelé les acheteurs de biens noirs, c'est-à-dire des bourgeois qui avaient du capital, qui achètent ces abbayes et les utilisent comme carrière. Et en quelques années, sans doute favorisés par le régime qui ne veut pas qu'il y ait une restauration, ces églises sont détruites et on garde les grands espaces susceptibles de servir à abriter des manufactures. Et donc les abbayes avaient souvent des volumes d'espaces assez considérables qui ont été conservés, mais ont détruit l'église. Les tableaux qui s'y trouvent sont dispersés, vendus, mis au musée. Au fond, la religion au musée, on passe à une autre période. Comme les pacifistes qui disent aujourd'hui l'armée au musée. C'est ça qui se passe. L'histoire de l'art qui est mon métier, elle naît à ce moment-là. Elle naît d'un effort pour transformer des objets qui sont des objets usuels du culte et des objets qui véhiculent une idéologie en ce qu'on appelle aujourd'hui l'art. L'histoire de l'art trouve ses fondements là-dedans. Et il faut se souvenir de ses origines. On se demande souvent pourquoi les historiens de l'art attendent tellement de temps pour encourager des artistes vivants, et que c'est parfois tout à la fin de leur vie, si pas le lendemain de leur mort, qu'on les célèbre. Eh bien, il y a dans les fondements de l'histoire de l'art une mise à distance des objets par la rationalité technicienne, industrielle, et par l'organisation moderne du travail, qui fait qu'au fond, la création n'est pas quelque chose d'indispensable dans l'existence. C'est un petit secteur de loisirs tout à fait intéressant. Mais le message de l'art, qu'il soit anarchiste ou qu'il soit religieux, au fond, nous éloigne du productivisme qui naît à la Révolution française, qui crée une société de progrès, ce progrès qui nous mène au monde que nous connaissons aujourd'hui et qui a méconnu, qui a piétiné une société stationnaire qui respectait le monde et la nature d'une certaine façon que nous ne connaissons plus.
Quand vous dites ça, Pierre Loos, vous pensez à ce qui est arrivé à l'ex-Congo belge ?
Ça fait partie des préoccupations qu'on peut avoir. Personnellement, je suis accédé à l'histoire de l'art après un passage par des études d'ethnologie, de linguistique africaine, etc. C'est vrai que, au moment de mes études, j'étais pris de ce remords ethnologique qui fait qu'on se demande ce qu'on peut encore faire dans une société qu'on a déstabilisée, qui était une société stationnaire et dans laquelle on introduit, je dirais, le microbe d'une vision progressiste du monde. Ce qui fait que j'ai décidé de ne plus m'occuper d'art primitif et de linguistique africaine et de regarder le monde de l'Ancien Régime avec le regard d'un ethnologue. Je n'ai pas la foi personnellement, je ne viens pas d'un milieu catholique, mais j'ai regardé le catholicisme avec la bienveillance qu'on peut avoir en tant qu'historien de l'art pour une forme de communication qui a hérité en quelque sorte du patrimoine, de la sensibilité gréco-romaine. Et à cet égard, effectivement, le protestantisme m'intéresse moins, il est plus philosophique, mais il y a dans la communication à travers l'image quelque chose qui est très attendrissant et qui touche tout le monde sans passer par les mots. On peut avoir des querelles théoriques et dogmatiques, mais qui se passent en termes de mots. Une fois qu'on est en face d'un tableau, on est devant l'émotion. Au centre du catholicisme se trouve un mythe, bien sûr, celui de la Vierge et de l'enfant. Mais au fond, qui a eu des enfants connaît à un moment cet état d'esprit qu'on retrouve au cœur du catholicisme, de certains aspects du catholicisme, évidemment, pas tous. En ethnologue et en homme occidental sensible, cette société stationnaire, ou presque stationnaire, de l'Ancien Régime, m'a toujours intéressé. Et la Révolution française constitue une rupture évidente. Elle a soulagé peut-être pas mal de gens d'une misère épouvantable, ça, nous sommes tous d'accord. L'histoire de l'Ancien Régime fait parfois frémir. Les guerres de Louis XIV étaient très ravageuses, ont fait souffrir affreusement. Je ne parle pas des horreurs qui sont passées sous Philippe II, qui procédaient d'une mécompréhension complète des aspirations du pays, et qui étaient d'une maladresse épouvantable. Donc je ne suis pas un nostalgique de l'Ancien Régime, loin de là. Mais je trouve que ce patrimoine artistique est merveilleux, digne d'être conservé, entretenu, et d'entretenir la mémoire des hommes qui ont fait ça.
Quelque chose du temps à Bruxelles.
De façon générale, toutes les églises ont temporairement servi, heureusement, d'entrepôt pour un métier ou un autre, parce qu'elles présentaient des espaces assez vastes. Et puis, nous avons Napoléon qui, à un certain moment, réconcilie l'Église et l'État en se rendant compte que la religion a une fonction dans la population et que les tentatives de la Révolution française pour créer une religion de l'être suprême ou des choses comme ça ne fonctionnent pas. Et qu'il y a une persistance des mythes, des croyances, et que s'opposer à cela, mais au nom de la rationalité, requiert une énergie inutile et ravageuse. Et au fond, c'est comme ça que, avec le Concordat, l'État trouve un modus vivendi avec l'Église et qu'une série d'églises ouvre à nouveau. Mais une série d'autres ont disparu dans l'intervalle, puisque la disparition des couvents dont nous parlons se passe souvent en 1783. On a quelques cas intéressants où on sent que la ville avait besoin d'espace. Parce qu'au fond, ce que montre l'étude des couvents, c'est aussi la surface qu'ils occupaient, le nombre des religieux qui y résidaient, qui devenaient de plus en plus réduits, dans une ville qui, elle, se repeuplait. Parce que le XVIIIe siècle connaît une phase de repeuplement liée à des hasards frumentaires, de bonnes récoltes pendant plusieurs décennies, qui vont favoriser aussi l'esprit des Lumières, une vision d'une société progressiste, etc. Parce qu'avant, la vision cyclique que nous donnent les saisons d'un éternel retour était le modèle mental. Et souvent, d'ailleurs, on voit dans les généalogies, les petits-enfants prennent les prénoms des grands-parents. C'est un éternel retour. Nous sommes là, juste devant le couvent Saint-Pierre, dont le territoire est occupé aujourd'hui par l'hôpital Saint-Pierre. Ce territoire a d'abord été une léproserie. Une série de religieux se sont occupés du secours aux lépreux. Grâce à l'éloignement des lépreux, avec une vague, très très vague conscience de ce qu'était la contagion, au bout de 2 ou 3 siècles, les lépreux étaient devenus beaucoup plus rares. Et dans ce lieu, les religieux ont continué à s'occuper du secours des malades. Au béguinage, le grand béguinage de Bruxelles, qui naît au début du XIIIe siècle, ce sont des femmes qui s'assemblent pour vivre ensemble et gagner leur vie par un petit travail dans l'industrie lainière, mais aussi qui veulent porter secours aux malades. Et donc, au béguinage, se trouvait une infirmerie, et cette fonction a duré pendant 5 siècles, jusqu'au début du XIXe siècle. À un certain moment, l'administration des hospices hérite de tous les biens des couvents qui avaient une mission de secours, à la différence de ceux qui n'avaient qu'une mission contemplative, et c'est l'administration des hospices qui va construire le grand hospice qu'on connaît toujours, qui existe dans ce quartier, qui prétendra remplacer plus efficacement les béguines qui portaient secours à domicile le plus souvent.
Pensez à l'hospice Pacheco.
Oui, c'est l'hospice Pacheco, dit Pacheco.
Aux archives de la ville de Bruxelles, au 65 de la rue des Tanneurs à Mille-Bruxelles, quelque chose du temps.
Frédéric Boquet, vous dirigez les archives ?
Oui, je suis responsable du service des archives. Donc, le titre officiel, c'est archiviste en chef de la ville de Bruxelles.
En un mot, nous sommes dans un ancien magasin, ici,
oui.
Rue des Tanneurs, au 65.
Oui. Donc c'est les anciens magasins Jules Wauquiez, c'est textile en gros. La première partie du bâtiment a été construite vers 1900-1901 et les activités des Wauquiez ont cessé en 1976. Ensuite, la ville a racheté le bâtiment et les archives se sont installées ici en 1979.
Installation de avec Myriam Louyest jusqu'au 13 décembre. Avec la participation de Frédéric Boquet.
C'est les archives de la ville de Bruxelles, donc les archives qui sont produites par l'administration communale de Bruxelles, Laeken, Arun et de Rovenbeek, donc la commune de Bruxelles. Et donc c'est les documents administratifs. Maintenant on a des documents administratifs qui remontent au Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Le plus vieux document est un document de 1244. Les plus récents sont des documents qui sont produits aujourd'hui. Et donc on a aussi bien les dossiers de travaux publics d'urbanisme que les registres de l'état civil avec les naissances, les mariages, les décès, les dossiers du personnel, etc. Donc c'est vraiment ce qui est produit par l'administration.
Cette émission, Frédéric Boquet, est consacrée à la question de l'histoire et à la question du temps.
Dans ma démarche artistique, c'est toujours l'idée d'investir un lieu particulier. Je veux dire que autrement, je n'arrive même pas à sortir quoi que ce soit de mon atelier. C'est vraiment en vue d'investir un lieu par rapport à son histoire, par rapport à son architecture, par rapport à sa fonction aussi, que je vais arriver à pouvoir créer des pièces qui vont pouvoir s'immiscer comme ça le plus subtilement possible dans l'espace. Et en fait, je regarde d'abord peut-être parfois le lieu avant de m'intéresser à ce qui est proposé dans le lieu. C'est toujours ça qui va primer d'abord. Mais les deux m'avaient frappé à l'époque. Vraiment m'avaient frappé parce que je trouve qu'ici, on a l'impression que le temps s'est arrêté.
Temps qu'on retrouve dans le titre de l'exposition qui a lieu pour l'instant de Myriam Louyest. Quelque chose du temps. Là où les archives reposent, demeurent, sont consultables. C'est bien ça.
Oui, c'est ça.
Il y a une fascination pour ça, et surtout pour le verre. Et puis, en fonction du lieu que je vais investir, il y a d'autres matériaux qui vont arriver. Ici, forcément, le papier, il n'y a que ça. Mais quand on parle de papier, ce n'est pas vraiment la matière papier, c'est plutôt l'archive, les documents, etc. Et le tissu, eh ben, c'est parce que c'est un ancien magasin de tissu. Et dans une installation que vous verrez plus haut, j'ai mélangé vraiment le papier et le tissu pour mélanger les deux fonctions du bâtiment, celle antérieure et puis celle actuelle.
Myriam Louyest, en fait, avait découvert le bâtiment lors d'une exposition antérieure qui se déroulait ici en 2010. C'était une exposition de Gilbert Fastenaken.
Et donc elle a... Sur les cartes postales.
Voilà, c'était la reconduction. Donc Gilbert Fastenaken était parti de cartes postales qui sont conservées ici pour en refaire des photos en essayant de retrouver le même angle de vue, la même lumière, etc. Donc c'était vraiment un travail de reconduction photographique. Myriam Louyest avait découvert le bâtiment à ce moment-là et s'était juré de pouvoir essayer d'investir le bâtiment un jour ou l'autre. Et puis voilà, on a rencontré Myriam Louyest il y a 2 ans maintenant. On a discuté du projet.
Quelque chose du temps. Toute l'exposition s'articule autour de petites choses qui attirent mon œil. Quand on arrive ici, on annonce « archives » en français et de l'autre côté « archives » en néerlandais avec les heures d'ouverture. Et il restait une place en dessous de « archives » en français. Et j'ai eu envie de mettre, entre guillemets, mon titre dans la même typographie, exactement la même typographie que le mot « archive », comme si quelque chose du temps avait toujours été là, comme s'il y a toujours eu quelque chose du temps aux archives. Et il y a une confusion parce que les gens, ils passent, ils ne le voient pas. Ils ne voient pas cette intervention. Et j'aime bien cette idée qu'elle soit à ce point intégrée que presque on ne la remarque pas, il faut qu'on le dise pour qu'on le sache. Voilà.
Vous n'avez pas vu cette exposition?
Non, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue, je ne savais même pas qu'elle existait, je vais dire. Comme ça, sur les casiers. Et puis, je les ai ouverts. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait dedans. Celui-là était vide, mais il y a un document qui s'est imprimé dans le fond. Et donc, en fait, j'ai voulu mettre une vitre dessus, comme pour le protéger. Et sur l'étiquette, j'ai indiqué quelque chose du temps. C'est toujours encore sauver quelque chose du temps. Voilà, et de le protéger par un verre.
Et ce document qui s'est imprimé, c'est quoi?
Il est à l'envers, je ne sais même pas dire ce que c'est. Je ne pense pas que c'est un document super intéressant. C'est l'idée qui m'intéressait, en fait. De mettre l'accent sur des petites choses que personne ne voit ici. Donc, voilà. Que moi, j'ai vu parce que j'ai porté un autre regard sur le bâtiment.
La trace.
Oui, voilà, c'est aussi la trace.
Et cette association, vous la connaissez?
Pas du tout. Pas du tout.
Et le nom de Pierre Loos, vous connaissez?
Non plus. J'ai entendu un écrivain à la télévision qui a relevé une phrase du livre de Annie Ernaux, Les années, et qui disait ceci: sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais. Et je ne sais pas, cette phrase m'avait touchée, et je cherchais depuis plusieurs semaines, voire des mois, mon titre, et j'ai juste gardé quelque chose du temps. Le presse-papier est une pièce emblématique du travail du verre. Même encore aujourd'hui, des grandes cristalleries vont demander à des designers de créer des presse-papiers. Et moi, je joue la notion du presse-papier jusqu'à l'absurde, à prendre des tout petits presse-papiers, parfois pour des grosses piles de papier, ou inversement. Et ici, ce qui fait office de presse-papier, donc tous ces petits documents que j'ai été chercher dans ce qu'ils appellent le fonds Wauquiez, donc ce que l'entreprise Wauquiez a laissé en partant d'ici, c'est-à-dire pas grand-chose. Moi, j'ai choisi quelques pièces, certaines plus mystérieuses que d'autres, parce qu'il y a des boîtes où on ne sait pas ce qu'elles contiennent. Et puis, par contre, il y a, par exemple, ici, une lettre hallucinante d'excuses d'une dame qui écrit à son directeur.
Vous pourriez la lire?
Avec plaisir. J'espère que j'arriverai à tout lire comme il se doit. Monsieur le directeur, pourriez-vous remercier ces messieurs? Chez nous, c'est un café. On peut contre les amis? Mais au sortir du banquet, ma permanente de la veille me faisait mal. Le lendemain, dimanche, j'ai même oublié le rendez-vous que j'avais avec un de mes fiancés. Aujourd'hui lundi, je vous écris du bureau où je me repose. Votre dévouée, Elsa Buttermel. C'est une petite anecdote, mais voilà, ce sont des petites choses qui sont oubliées. Elles étaient dans des cartons. Ça m'a amusé de ressortir ça. Et donc, en fait, ce sont tous des fragments, je dirais, de ce qui reste du fonds Wauquiez, de ce qu'ils ont laissé en partant. Donc, il n'y a pas grand-chose. Et dans ce pas grand-chose, j'ai encore choisi pas grand-chose. Et en fait, sur chacun de ces fragments, il y a ce que j'appelle des météorites. Mais ce sont des fragments de verre retravaillés, évidemment. Ils sont meulés, polis, voilà. Ce sont des pièces qui sont assez séduisantes, comme ça, et qui servent en même temps de presse-papier.
Myriam Louyest.
Quand j'investis un lieu, j'essaie toujours de trouver un lien avec moi, en fait. Je savais qu'il y a une bonne partie de ma famille qui est de Bruxelles, mais il fallait que ce soit 1000 Bruxelles. Et mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire du côté de mon papa, est née en 1876, quai au Foin, à Bruxelles. Et donc, j'ai fait la recherche, comme tous les gens qui viennent ici, qui viennent rechercher des disparus. J'ai recherché son acte de naissance et je l'ai trouvé. Ça ne se fait pas en deux minutes, mais je l'ai trouvé encore relativement facilement. Et je me suis dit que j'allais le montrer, parce que voilà, ce sont en plus des documents qui sont magnifiques à regarder. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, quand je suis arrivée ici, j'étais frappée par cette hauteur, cette vue qu'on a depuis l'escalier qui traverse tous les étages du bâtiment. Et en fait, je me suis dit que les archives de Bruxelles, c'était comme un cimetière de papier, parce que c'est rempli de disparus. Et le ciel, pour moi aussi, c'est une métaphore de l'au-delà. Et donc, j'ai eu envie d'amener un ciel bleu, parce que normalement, cette verrière est très grise, c'est très moche et triste. Et j'ai envie d'amener le ciel dans les archives, c'est-à-dire que faire le lien entre les vivants et les morts. Ramener le ciel dans les archives via ce tube de verre dans lequel est inséré toute une série de filaments de verre filés au chalumeau bleu. Et c'était l'idée du lien qui nous unit à nos ancêtres et aussi l'idée du fil toujours par rapport à l'ancien magasin qu'il y avait ici qui vendait des fils, des tissus, etc. Rapprocher les morts des vivants, voilà. Et créer comme une espèce de connexion comme ça. Donc le ciel bleu, il est obtenu par de la lumière qui est projetée sur la verrière par le dessus. Et on a essayé de le faire assez subtil pour que ce soit un bleu de chez nous, pas un bleu du sud de la France. C'est un bleu doux comme ça. Il y a une petite variation dans la couleur, mais qui est extrêmement subtile. Ça bouge un tout petit peu, mais pas énormément. Alors ici, nous avons ce que j'appelle le classement vertical. Ce serait un classement vertical d'une autre sorte. Et ce sont en fait des fiches de bibliothèque qui m'ont été données au moment de la préparation du projet. Ils m'ont donné certains documents avec lesquels je pouvais travailler. Et j'ai juste inséré chaque fois une... Elles sont bien dans l'ordre, on ne les voit pas, mais elles sont bien dans l'ordre. Une fiche de bibliothèque entre chaque fois une plaque de verre d'un format A4. Et la superposition de ces fiches à l'intérieur de ces plaques de verre donne une sensation comme ça de profondeur quand on regarde par le dessus. Ça donne une sensation, on ne sait pas où... On voit où ça commence et on ne sait pas bien où ça finit. Chaque pièce ici est mêlée à un élément des archives de toute façon.
Plan de Bruxelles, 1966.
C'est mon année de naissance. Je me suis arrêtée en 1966 pour qu'il y ait quand même voilà, un petit lien avec moi. En fait, quand je suis montée vers la verrière, à travers les étages, à des endroits où normalement on ne peut pas aller, sur une table, il y avait comme ça tous des vieux documents, très sales, mais où je leur trouvais vraiment une esthétique particulière. Et je trouvais ça assez émouvant. C'est comme ça qu'ils reçoivent les documents, les vieux documents, avant de les nettoyer. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on ne verra pas aussi. Donc c'est de nouveau une façon de mettre l'accent sur des choses que les gens ne peuvent pas voir. Et par-dessus, j'avais des petits cubes comme ça. J'appelle ça des illusions cubes parce que, en fait, la couleur se montre à un endroit où elle ne se trouve pas. Que j'ai utilisé aussi pour jouer un effet de contraste comme presse-papier aussi. Aussi un peu absurde parce que le presse-papier est petit pour une grosse pile de papier. Et pour jouer de ce contraste entre le matériau, la couleur et ce côté tout à fait passé, jauni des vieux papiers, quoi.
Papier qui remonte avant la naissance de la Belgique. Hein.
Ah ben voilà.
Nous sommes 2 ans après la bataille de Waterloo.
Ah ben voilà.
1817.
Voilà.
Vous avez lu ce qu'il est écrit ?
Logement placé chez le sieur, section...
Chevaux, nuit, le...
Ah ben, je n'ai pas regardé comme vous. J'étais tellement dans l'activité de mon montage que je n'ai pas pris la peine de regarder tous les détails des documents qui étaient sous mes pièces de verre. Je vous remercie de me mettre l'accent sur les petites choses que je n'ai pas vues, c'est très bien. Alors, ici, dans les archives de Bruxelles, il y a des boîtes en carton. Il y en a autant qu'on en veut, des centaines, des milliers. C'est vraiment quelque chose qui est très frappant aussi quand on arrive.
Quelque chose du temps à Bruxelles. À l'Association du patrimoine artistique, située au 7 de la rue Charles-Hansens à Mille-Bruxelles. Bruxelles autrefois. Les églises, chapelles et couvents disparus. Avec Pierre Lose. Jusqu'au 26 octobre.
Alors ici nous sommes devant des tables où on déroulait autrefois les tissus, où on pouvait les choisir, les découper. J'ai trouvé dans les archives des plans du bâtiment qui sont extrêmement beaux. Et j'ai eu envie de les imprimer sur du tissu pour qu'on refasse ce geste de défaire un pan de tissu. D'ailleurs, ça s'appelle pan, P-A-N-S, comme un pan d'histoire et comme un pan de tissu. Et en fait, ça rejoint aussi ce que les gens font ici. Moi, je les ai vus faire. Ils arrivent, ils demandent des plans. Les plans sont très grands. Il faut qu'ils les déploient sur la table. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici avec les plans en tissu. Il y en a plusieurs. Il y en a 7 en tout. Et en même temps, les gens peuvent regarder ces plans anciens et tâter la matière.
Aux archives de la ville de Bruxelles, au 65 de la rue des Tanneurs à 1000 Bruxelles, quelque chose du temps. Installation de avec Myriam Louyest jusqu'au 13 décembre. Avec la participation de Frédéric Bocquet. Quelque chose du temps à Bruxelles. Par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Et donc, ce que vous déployez, Myriam Louyest, c'est descriptif de façade, apparemment.
Oui. Rue des Tanneurs, 65, à Bruxelles, pour le compte de monsieur, messieurs Wauquiez et compagnie, façade principale.
Et c'est signé par l'architecte.
L'architecte, oh là là. Van Leeuwen, on dirait. Oui, c'est ça. Le 1er mars 1900, mais il nous manque un petit morceau. On ne le saura pas.
Dressé par l'architecte à
Saint-Gilles.
Le 1er
mars 1900.